le santal a failli disparaître. Le santal Inde a failli disparaître. Alors, pas que à cause de la parfumerie, parce qu'il était utilisé dans les constructions, dans des rites religieux et en parfumerie. Et donc, on a créé des matières premières de synthèse pour substituer le naturel. Donc, c'était pour préserver, en fait, cette matière, cet ingrédient, cet arbre.
Bonjour, je suis Chantal Soutarçon. Bienvenue sur Beauty Toaster, le podcast dédié à la cosmétique en mouvement. Aujourd'hui, je suis allée à la rencontre d'Anaïs Fournéal, qui est née, ou parfumeur, avec un E à la fin. Indépendante, Anaïs crée des parfums, sur mesure, pour des gens comme vous et moi. Elle conçoit aussi des ambiances et des logos olfactifs, pour des lieux comme des hôtels, des entreprises, pour des événements privés ou publics. Un métier passion et singulier, dans une époque non moins singulière. Hashtag Covid. Allez, à vos écouteurs, c'est l'heure de Beauty Toaster. Bonjour Anaïs.
Bonjour Chantal.
Alors, comment est-ce que je dois vous appeler ? Parfumeur, parfumeuse, née, créatrice de parfums ?
Alors j'avoue que j'ai une petite préférence pour parfumeureux, ouais. Avec un petit E à la fin, ouais. Carrément. Néanmoins, je me suis rendu compte quand je rencontre des personnes à des dîners ou tout ça, quand c'était encore possible, quand je leur dis que je suis parfumeur ou créatrice de parfums, ils ne comprennent pas.
Ah oui.
Pas de réaction, on ne sait pas ce que je fais, on croit que je suis vendeuse en fait,
ah, d'accord.
Souvent de parfums. Et donc je suis obligée d'ajouter que je suis née pour que les personnes comprennent. Et je m'étais amusée à faire un petit sondage sur Instagram, en français et en anglais. En français, j'avais proposé donc parfumeur, née ou créatrice de parfums. La plupart des gens qui ne sont pas de l'industrie préfèrent née. La plupart des gens qui sont de l'industrie préfèrent parfumeur. Et en anglais, par contre, tout le monde préfère perfumer au lieu de nose.
Okay.
Donc finalement, je dirais tout va. Tout correspond. Même si, voilà, moi j'ai une petite préférence pour parfumeur.
Ouais. Et qu'est-ce qui vous a poussé à devenir parfumeur ?
Ouh là là. Longue histoire, je vais essayer de la faire courte. Je crois que c'est pas moi qui ai choisi, je crois que c'est la parfumerie qui m'a choisi. En fait, moi à l'origine, je voulais être styliste ou architecte, mais je savais pas dessiner. Donc c'était assez
compliqué.
C'est un problème. Ça posait effectivement problème. J'ai entamé des études de médecine. Donc vous voyez, on est encore loin de la parfumerie. Et puis, à l'issue de la première année de médecine, j'ai eu des équivalences pour aller dans tous les domaines scientifiques, donc physique, chimie, bio ou maths. Et moi, j'adorais la physique, donc j'ai demandé à aller en physique. La physique, c'était la seule option où on devait faire une remise à niveau de maths, parce qu'en médecine, on n'en faisait pas. Donc, j'avais dit aucun problème. À ce moment-là, je m'étais dit, je ferais astrophysicienne.
Ouais, sympa.
Donc, après styliste, architecte, neurochirurgien, astrophysicienne. Sauf qu'à la période où il fallait faire ses remises à niveau de maths, moi, je partais en vacances à l'île de la Réunion avec une amie réunionnaise. Donc, j'ai préféré partir à la Réunion plutôt que faire la remise à niveau de maths. Et donc, il ne me restait plus que deux choix, biologie ou chimie. Mm. Là, c'était compliqué. Je me suis dit, je vais aller en biologie parce que je n'aimais pas la chimie. Mm. Je suis revenue de mes vacances. J'ai changé mon inscription pour m'inscrire en chimie. Et c'est seulement à ce moment-là, j'ai eu beaucoup de chance. Dans ma fac, il y avait une option parfum et une option œnologie. Et en fait, ayant fait pas mal de chimie quand même en médecine, je m'étais dit, je vais prendre toutes les options qui sortent un petit peu de l'ordinaire pour essayer de trouver aussi un métier.
Bien sûr.
Donc j'ai pris ces deux options, alors plus dans l'idée de me dire ça va être sympa que de me dire je vais trouver un métier. Et en fait, en faisant ces deux options, il y a deux choses qui me sont revenues en tête. La première concernant l'œnologie. Petite, j'allais souvent en vacances dans la région de Sancerre, donc
Oui.
Je courais dans les vignes, on avait des amis vignerons, et j'avais pensé un jour faire œnologue, mais c'était de la chimie, donc c'était finalement pas envisageable. Et là, je me retrouvais là-dedans.
Ouais.
Et les parfums. Et les parfums, là, tous les cours de parfums, ça a été des révélations. Et je suis rentrée dans ma chambre un soir, j'ai juste ouvert les yeux. Dans toute ma chambre, il y avait des posters de pubs de parfums, partout. Des miniatures de parfums, partout.
Ah oui.
Et j'avais jamais réalisé en fait cet amour et cette passion que j'avais pour les parfums. J'avais jamais réalisé qu'il y avait un métier derrière.
Oui, c'est ça.
Mais c'était un peu devenu une évidence. Bon, le chemin était encore long. Il fallait passer le concours à l'époque de l'ISIPCA. Donc je m'étais dit, c'est quand même un concours. Si jamais je ne l'avais pas, je vais m'inscrire par sécurité dans les écoles d'œnologie. J'ai passé le concours. J'ai été major du concours. Et donc là, je me suis dit, bah, il n'y a plus de doute, ma place, elle est là et c'est bien ça que je dois faire.
Waouh.
Voilà le parcours.
Voilà le parcours.
Mais la boucle était bouclée, ouais, du coup.
C'est ça. C'est ça. Et alors, après avoir travaillé chez l'artisan parfumeur et chez Mann, vous décidez de vous lancer seule, lancer votre maison de création à même pas 30 ans. Qu'est-ce qui vous a poussé?
Qu'est-ce qui s'est passé?
Une
évidence et un besoin. Quand je repense à tous les métiers que j'ai eu envie de faire, donc styliste, architecte, avocate, c'est toujours des métiers indépendants. Je pense que la première chose que j'ai eu envie de faire dans ma vie, c'est être indépendante. Et donc finalement, c'était un besoin et j'ai un peu créé, ou en tout cas construit ma carrière toujours dans cette idée. Je me souviens, un des derniers jours d'école, j'ai un camarade de classe qui me dit « Anaïs, tu sais, si quelqu'un doit un jour monter sa société, c'est toi ». Et je n'en avais jamais parlé à mes camarades de classe.
D'accord.
Donc ça m'avait bouleversée et je me suis dit « Mais comment ça se fait que ça se voit autant ?» Et toute ma carrière a été construite comme ça. J'ai commencé mon apprentissage, chez Simrise, oui, en recherche et développement. Mais en fait, moi, à l'époque, je découvrais l'univers de la parfumerie. Donc, être en recherche et développement, je me suis dit, pour après être indépendante, c'est trop réduit, c'est trop spécifique. Donc, j'ai démissionné de mon apprentissage pour faire un apprentissage dans une petite structure à Grasse en tant qu'apprenti parfumeur, parce que c'était quand même parfumeur que je voulais, oui, faire. Mmh. Mais au moins, le fait d'être dans une petite structure, ça me permettait de toucher un petit peu à tout. Et puis, quand vous êtes à l'école et quand vous faites votre apprentissage dans une maison de création, on ne vous parle quasiment que de ce côté fournisseur, maison de création. Et on sait assez peu comment ça fonctionne dans les marques. Donc moi, j'avais envie, après l'école, d'aller travailler dans une marque, parce que finalement, la marque sont les clients.
C'est
donc
ça.
C'était important pour moi de finir en quelque sorte cet apprentissage et cette découverte de l'industrie. En plus, l'artisan parfumeur était basé à Londres. Donc ça me permettait de partir à Londres, de travailler un petit peu mon anglais. C'est important aujourd'hui. Donc j'ai fait un an à peu près à Londres chez l'artisan. Ça m'a permis donc de vraiment comprendre comment est organisée une marque, comment est-ce qu'elle fonctionne, quelles sont les relations entre la marque et la maison de création. Et puis ensuite, aller travailler chez Mann, bah, ça permettait de voir vraiment comment fonctionne une grande maison de création, une belle maison de création.
Ouais.
Comprendre le point de vue de la maison de création pour les marques, comment est-ce qu'ils s'organisent, comment est-ce qu'ils travaillent, et donc de vraiment avoir les relations entre les deux.
Okay.
Quand j'ai commencé chez Mann, je m'étais dit j'y resterai 3-4 ans et après j'arrêterai. J'avais oublié. Je suis restée 3 ans et demi.
Ok.
Et au bout de 3 ans et demi, je me suis dit bon là, ça suffit. J'ai besoin de ma liberté. J'ai besoin de ma liberté créative, de ma liberté dans le temps que je peux passer avec mes clients, dans la relation que je peux avoir avec mes clients, retrouver aussi ce contact humain, liberté aussi de choisir les projets. Mmh. Des projets très classiques et des projets parfois complètement fous. Mais c'était nécessaire.
Ouais.
Donc voilà, il était temps pour moi de lancer la maison.
Et alors, vous créez donc des parfums sur mesure. En quoi consiste votre travail ?
Alors, la création de parfums sur mesure, c'est à la fois pour les particuliers et les professionnels. Donc, c'est deux approches qui ont beaucoup de points communs et qui, en même temps, sont assez différents. Donc, si je commence par les professionnels... pour les professionnels, ça va être par exemple des marques de parfums, donc qui veulent lancer leur parfum. Ils vont vouloir raconter une histoire à travers ce parfum. Et donc, moi, je vais m'inspirer de cette histoire pour créer le parfum. Ça peut être des marques de créateurs ou des start-up qui veulent lancer donc leur premier parfum. Et à ce moment-là, il y a une vraie attention et il y a une vraie relation privilégiée pour les accompagner dans tout ce lancement produit aussi et pas uniquement la création, ouais, du parfum. Je travaille aussi avec des maisons de spiritueux ou des maisons viticoles. Alors là, pour travailler sur... oui, c'est étonnant. Là, je vais être plus... Parfois, ça va être... Vous connaissez les nez du vin ?
Non.
Souvent, c'est quand on fait des cours d'œnologie, par exemple, on apprend à sentir toutes les différentes facettes d'un vin. Et pour mieux comprendre, on a des petites fioles où on sépare en fait chaque odeur du vin. Donc,
okay,
il va y avoir café, myrtille,
cassis,
pamplemousse, cassis, etc. Donc ça peut m'arriver de refaire ce type d'exercice avec des maisons pour un vin en particulier. Ça peut être aussi pour des expériences sensorielles, donc avoir envie de faire voyager les consommateurs dans telle ou telle région avant qu'ils dégustent le vin. Donc c'est toujours des projets que j'adore.
Ouais.
Et puis du coup, ça me fait mon lien avec l'œnologie que j'aimais tant, donc c'est vraiment des super projets. Je peux travailler aussi avec des artistes, donc ça peut être mettre en parfum une œuvre, voire une exposition. Et donc à chaque fois, bah, on part de... Quelle a été l'inspiration de cet artiste pour faire cette œuvre? Quelles ont été les étapes de création? Et en fait, moi, je vais tout traduire en parfum à chaque fois. Donc, chaque étape, chaque valeur va correspondre à des matières en parfum. Et ça peut être aussi des signatures olfactives. Donc, pour une marque, mettre en parfum, ça peut être un hôtel, ça peut être un showroom, mais mettre en parfum toutes ces valeurs et toutes ces histoires. Donc, à chaque fois, je pars d'une feuille blanche. Et chaque valeur, chaque histoire, chaque... couleur éventuellement ou matière va être interprétée dans le parfum. D'accord. Ça, c'est pour la partie professionnelle. Pour les particuliers, donc on est toujours sur la création sur mesure. Et ça peut être soit pour des événements. Donc, il faut savoir que les parfums sont extrêmement importants au niveau de la mémoire et notamment de la mémoire émotionnelle. Donc, pour moi, il y avait quelque chose d'évident à mettre en parfum des événements ou des étapes de la vie et notamment, par exemple, un mariage. Donc à ce moment-là, je rencontre le couple qui va me raconter leur rencontre, qui va me raconter leurs anecdotes, leur histoire, peut-être leur ville fétiche, peut-être leur musique, voilà, tout ce qui est important pour eux. Et encore une fois, tous ces points vont être traduits en parfum. Et après, ça peut être offert aux invités. Et ça va être diffusé sur tous les lieux de cérémonie pour vraiment ancrer cette odeur à l'événement.
C'est beau.
Et ensuite, pouvoir l'offrir aux invités pour que eux, chez eux, se remémorent chaque moment. Mais ce n'est pas juste se remémorer visuellement, c'est vraiment émotionnellement pouvoir faire revivre ces émotions.
D'accord.
Donc, mariage, anniversaire, baptême, voilà, tout le moment important, féliciter quelqu'un pour un diplôme. Et ensuite, donc, on a les parfums sur mesure à porter.
Ouais.
Là, c'est plus pour des personnes qui veulent se sentir uniques, qui veulent éventuellement se faire plaisir.
Ouais.
Et c'est une vraie expérience avec eux parce que moi, j'ai un peu l'impression que c'est un travail à quatre mains.
C'est ça.
Ils sont mon inspiration et moi, je suis leur main pour obtenir le parfum.
Ouais.
Leur main et leur nez.
Ouais, leur main et leur nez. Et ça peut prendre un temps...
Ça
peut prendre pas mal de temps. Ouais, c'est pas quelques jours, c'est plusieurs semaines, mois même.
Voire mois. Oui. Le travail du parfum sur mesure, ça commence par une rencontre. Une rencontre qui déjà dure plusieurs heures.
Ouais.
Alors, pendant cette rencontre, je précise assez rapidement que je ne veux pas parler parfum.
Ah oui, d'accord.
Pas du tout. Ouais. Je ne veux surtout pas, en fait, savoir ce qu'il porte. Et parfois, c'est très difficile parce que pour les gens, je suis là pour créer un parfum. Donc, ils ont envie de me dire « je porte tel parfum, j'ai porté tel parfum, j'adore ces matières, mais surtout pas !» Ne me dites rien. En fait, moi, ce que j'aime, c'est simplement comprendre la personne, l'écouter. La personne va me dire ce qu'elle a envie, finalement, qui elle est, ce qu'elle aime. Et puis moi, je vais percevoir des choses. Même dans les silences, on perçoit des choses. Et en fait, je vais prendre beaucoup de notes. Et parmi ces notes, il y a un petit peu des ingrédients qui vont être évidents pour moi, qui vont un petit peu s'allumer, je dirais, et qui vont correspondre
D'accord.
à des traits de personnalité, à des ressentis, à plein de choses. C'est vraiment du ressenti, de l'intuition. Et un exemple, pourquoi je ne veux pas qu'on parle parfum ou matière première, un jour, j'ai un particulier qui n'a pas pu s'en empêcher et qui me dit « j'adore le patchouli, je veux du patchouli dans mon parfum ». Et pour moi, cette personne n'était pas patchouli.
Ah oui, d'accord.
Je ne la ressentais pas patchouli. Et donc, je ne le fais jamais, mais là, je n'ai pas pu m'en empêcher. Et ce jour-là, j'avais quelques échantillons dans mon sac, dont le patchouli.
Mais qui ne sent pas du tout le patchouli qu'on connaît
dans les
communément.
Ouais, exactement. Ouais. Non, moi, j'avais vraiment la vraie matière première, patchouli. Et donc, je lui fais sentir plusieurs matières. Et à un moment, je glisse le patchouli. Quand je lui ai glissé le patchouli, il a eu un mouvement de recul. Il m'a dit « j'aime pas du tout !» c'est
dommage.
Bien ce qu'il me semblait. Donc finalement, je veux pas. Alors, c'est le premier rendez-vous. Donc pour l'instant, on n'est que vraiment sur apprendre à se connaître, l'intuition, le ressenti. Une fois que je repars avec, je dirais, chargée en émotions et en idées de matière première, moi, après, je vais aller au laboratoire, je vais faire plusieurs essais. Une fois qu'il y a 2-3 essais qui vont me sembler pas mal, parce qu'ils ne seront pas parfaits, mais c'est volontaire aussi. En fait, dans ces essais, je vais un petit peu booster certaines facettes parce qu'on n'est pas habitué à parler parfum.
C'est clair. Ouais.
Donc, s'il est trop lisse, ça va être difficile pour les gens de me dire ce qu'ils aiment et ce qu'ils n'aiment pas. Donc, volontairement, je vais exagérer certains traits. Finalement, dans notre personnalité, on a plein de facettes. Donc, le parfum doit avoir plein de facettes. Et même si des fois, on a l'impression qu'il y a des ingrédients qui ne vont pas ensemble, des fois, nous, dans nos personnalités, on fait le grand écart aussi.
Exact.
Donc moi, mon travail, c'est de réussir à harmoniser ces matières premières, de réussir à les assembler. Et donc, quand je vais les présenter, bah, la personne va me dire bah, « ça, j'aime bien pour telle raison, ça, j'aime pas pour telle raison », et puis on va continuer à en discuter. C'est qu'à partir du deuxième rendez-vous, éventuellement, qu'on peut me dire bah, « j'aimerais bien quand même avoir tel ingrédient dans mon parfum », parce qu'il y a des gens qui sont attachés à certains ingrédients, et donc si j'y ai pas pensé, bah, c'est aussi à ça que sert le sur-mesure, hein, pouvoir ajouter les ingrédients qu'on a envie. Mais en tout cas, c'est vraiment un parfum de l'être, de ouais, qui d'accord. on est profondément. On retire tous les masques et on va chercher qui on est profondément. Et donc après, en fonction de tous ces commentaires, moi, je vais retravailler à nouveau au laboratoire et on va faire plusieurs allers-retours comme ça. Alors, dans l'idéal, moi, je préfère voir la personne.
Ouais.
Quand c'est la personne est à l'étranger, j'envoie les parfums. Mais j'aime bien qu'on se fasse une petite visioconférence.
Ouais, quand même, ouais.
Parce qu'on a tellement d'informations sur le visage, la réaction spontanée quand on sent le parfum, le sourire, la grimace, le mouvement de recul, les épaules qui se baissent. Enfin, il y a tellement de choses, en fait, qu'on peut percevoir que c'est toujours important que la personne n'ouvre pas le parfum tant qu'on n'a pas fait la visio.
Ouais, c'est ça.
C'est souvent très dur. Mais normalement, il joue le jeu.
Il joue le jeu, ouais.
Et puis, on va faire des allers-retours, je dirais, jusqu'au coup de cœur.
D'accord.
Une fois qu'il y a un coup de cœur, la personne va essayer sur sa peau. Et là, la peau, c'est l'ingrédient
pas, hein.
Indispensable, c'est l'ingrédient sublime et c'est l'ingrédient que moi, je ne maîtrise pas. Donc, on va essayer sur la peau et en fonction de comment ça réagit sur la peau, bah, peut-être qu'il faudra encore retravailler un petit peu le parfum. Puis si ça fonctionne, on ne retravaille pas et on est parti comme ça.
D'accord. Ouais, donc, c'est quand même...
Donc, c'est plusieurs mois, parfois même un an.
Wow.
C'est un vrai projet, c'est vraiment le parfum de la personne que l'on est, je dirais en toute saison, à tout âge, vraiment qui représente toutes nos valeurs, toute notre personnalité.
C'est un parfum qui vous suit.
Exactement. Et c'est pour ça aussi que je trouve que c'est important que la personne soit impliquée. Et c'est pour ça que moi j'ai le sentiment que c'est un peu un travail à quatre mains, parce que sans cette personne, je ne suis incapable de faire le parfum. C'est pas possible, j'ai besoin vraiment d'avoir son histoire et puis tout ce qu'elle a envie de me dire en fait.
Clairement. Et alors, vous avez un intérêt pour l'aromacologie.
Oui.
Pourriez-vous nous expliquer déjà ce que c'est?
Oui.
Et comment vous vous en servez?
Alors, l'aromacologie, c'est la science des odeurs et surtout l'influence en fait que les odeurs peuvent avoir sur notre psychisme, sur notre comportement, pour favoriser le bien-être de chacun. L'aromacologie, je m'y suis formée après mon école, en fait un peu au moment où je me suis lancée en indépendant, parce que je me suis dit, mais si les huiles essentielles, si les odeurs ont tant de pouvoir, ce serait peut-être bien de savoir ce que je fais, parce que c'est quand même mon métier de tous les jours. Donc finalement, ça peut être dangereux aussi de mal maîtriser certaines huiles, etc. Donc j'ai eu besoin de me former pour bien comprendre. Et c'est aussi pour ça, je pense qu'aujourd'hui, je fonctionne en association traits de caractère, matière première. Je pense que c'est devenu inconscient, mais qu'il y a une part aussi d'aromacologie par rapport aux bienfaits des huiles, par rapport aux résonances qu'elles peuvent avoir et à tout ça. Donc moi, je m'en sers en fait, pas en tant que thérapeute, c'est pas mon objectif,
oui, d'accord.
mais je m'en sers pour donner du sens à mes parfums, pour faire des formules courtes, mais que chaque ingrédient ait son intérêt et chaque ingrédient ait sa place.
Ok. Et est-ce qu'il y a des matières premières, vous avez des matières premières fétiches, des ingrédients comme ça que vous préférez à d'autres?
J'ai pas de matières fétiches et je pense que je n'en ai pas aussi parce que c'est pas moi qui choisis les ingrédients, finalement c'est la personne ou la marque par rapport aux valeurs. Et les ingrédients sont évidents. J'ai pas le choix, en fait, de les utiliser, que je les aime ou que je les aime pas. Si ça résonne en moi en me disant c'est cette matière pour ce projet... Ben, on y va et on la met. Donc j'ai pas d'ingrédients privilégiés par rapport à ça. En revanche, je vais avoir une attention particulière pour favoriser un sourcing local quand c'est possible, parce qu'il y a des ingrédients qu'on n'a pas en France. Donc dans ces cas-là, c'est pas possible.
Comme quoi, par exemple?
Le patchouli, par exemple, en France, on n'en aura pas. On en parlait tout à l'heure.
Ouais.
Donc ça, par contre, en France, on va avoir de la lavande, on va avoir de l'iris, on a de la rose, on a du jasmin, donc on a quand même des jolies choses, mais bon, on peut pas
tout avoir.
Ouais. Et puis, essayer de privilégier aussi les filières éco-responsables. C'est quelque chose où l'industrie aujourd'hui est assez vigilante, donc on a la possibilité d'y faire attention, donc c'est super. Donc autant que faire se peut, voilà, c'est des choses où je vais faire attention.
Oui, alors justement, quand vous parlez d'éco-responsabilité, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous allez... regarder un peu comment sont produites
exactement.
Les matières premières.
Exactement, ça va être au niveau de la production, ça va être au niveau aussi du respect des cultivateurs et des producteurs, parce qu'il y a certains pays un peu défavorisés où c'est important de les soutenir, donc ça peut être aussi par rapport à ça. Et ça peut être aussi les aider dans leur technique. Dans leur technique pour les aider à se développer, pour être plus productifs, mais surtout pour aussi relarguer, je dirais, un peu moins de CO2 dans l'environnement.
Ouais, ouais,
parce que
ouais.
C'est ça aussi, être éco-responsable, c'est réussir à améliorer pas que le rendement, mais surtout le respect de l'environnement.
Mmh, mmh, bien sûr. Et alors, il y a aussi un débat qui fait un peu rage entre naturel et synthétique.
Le fameux.
Est-ce qu'il est légitime, selon vous ?
Bien sûr qu'il est légitime. Ça, je pense que c'est évident, il est légitime. Par contre, moi, j'ai l'impression qu'il y a un manque de clarté et de transparence par rapport, je dirais, aux questions posées. Il y a une confusion. Pour moi, la question n'est pas est-ce que l'un est mieux que l'autre ? La question est plutôt comment utiliser le meilleur des deux. Dans les naturels, vous avez des molécules dans certains naturels qui vont être photosensibilisantes, par exemple. Si on prend les agrumes, ils contiennent tous des molécules photosensibilisantes, donc il faut éviter d'aller au soleil en ayant des agrumes sur la peau. Mm. Vous avez d'autres matières qui vont être allergisantes, donc pour les peaux sensibles, il faut faire attention à ces molécules-là. Alors aujourd'hui, il y a la possibilité de réduire ces molécules dans ces naturels, mais donc on modifie le naturel en faisant ça. Ça reste un naturel, mais on le modifie. Et puis, on va avoir... Il y a aussi toutes ces... je dirais les marques qui, justement, surfent sur cette vague de 100% naturel. J'ai des clients, moi, qui me disent « Je suis allergique aux matières synthétiques.
» Comment peuvent-elles savoir ?
Voilà. Et du coup, des fois, en fait, ce que j'essaye de comprendre dans ces cas-là, c'est quel est l'objectif ? Pourquoi est-ce qu'on veut du 100% naturel ou pourquoi est-ce qu'on pense être allergique aux synthétiques ? Il y a une peur, en fait, de la chimie. Là où, quand on réduit justement ces molécules allergisantes, c'est grâce à la chimie qu'on réduit ces molécules.
Exactement.
Donc, on rend le naturel meilleur. Et c'est vrai qu'il y a aussi certains naturels. Par exemple, je pense au santal. Le santal a failli disparaître.
Ouais.
Le santal Inde a failli disparaître. Alors, pas que à cause de la parfumerie, parce qu'il était utilisé dans les constructions, dans des, rites religieux et en parfumerie. Mmh. Et donc, on a créé des matières premières de synthèse pour substituer le naturel. Mm. Donc, c'était pour préserver, en fait, cette matière, cet ingrédient, cet arbre.
Bien sûr.
Donc, parfois, le synthétique est là pour, justement, préserver le naturel, ouais, préserver les ressources. Puis, il faut savoir qu'on a quand même une réglementation très, très stricte et extrêmement stricte, je pense, comme en cosmétique. Donc, c'est vrai que le parfum est très réglementé, vraiment vérifié. Donc... A priori, il n'y a pas de matières qui sont néfastes pour la santé qui sont utilisées dedans. Et là où la chimie peut être intéressante, c'est notamment tout ce qui est biotechnologie, chimie verte, où on est sur des synthèses qui sont propres. On est sur des molécules qui sont bonnes pour la... Enfin, pas mauvaises pour la santé, en tout cas. Je ne vais pas dire qu'elles sont bonnes, mais elles ne sont pas mauvaises pour la santé. Et surtout, voilà, la chimie permet que, au niveau environnemental, bah, on n'a pas de rejet de CO2 dans l'atmosphère, ou moins que pour certains naturels. Donc voilà. Pour moi, il faut vraiment savoir prendre le bon dans chaque chose et ne pas avoir peur plus de l'un que de l'autre.
Intéressant. Alors, au-delà de ce débat, on dit souvent aujourd'hui que la parfumerie est en crise, voilà, que les jeunes s'en détournent. Mmh. Mais ça bouge quand même, ça bouge pas mal en ce moment.
Ah oui, oui, ça bouge. Il y a régulièrement des nouvelles marques qui se lancent aussi. Alors en ce moment, c'est souvent justement des nouvelles marques qui vont revendiquer ce respect de l'environnement, ce 100% naturel, etc. Mais l'industrie, je pense qu'elle bouge en permanence. Elle bouge en permanence pour comprendre justement les nouvelles générations de consommateurs. Elle va avoir un... Aujourd'hui, elle va toujours... C'est vrai que les consommateurs, en fait, les jeunes consommateurs consomment moins. Mais je pense que c'est aussi dans cette envie de consommer moins pour consommer mieux, pour avoir une consommation plus raisonnée. Donc, je ne suis pas sûre que les jeunes se détournent de la parfumerie, mais il y a peut-être une consommation qui baisse parce qu'on n'a plus 5 flacons sur son étagère et on n'en finit aucun.
Ouais, c'est
voilà,
ça.
Il y a une vraie attention, je pense, de la part des jeunes aujourd'hui par rapport à ça.
Ouais. Et vous ne pensez pas que tous ces jus très formatés sont aussi la cause de ce désintérêt ?
C'est possible. Je pense qu'aujourd'hui, on revient à ce désir d'être unique, à cette envie de se différencier. Il y a eu une période où c'était rassurant de porter le même type d'habit, le même type de couleur, le même type où on avait besoin d'appartenir à un groupe.
Ouais.
Aujourd'hui, on revient sur être soi, être un individu en tant que tel, même si ça fait toujours plaisir d'appartenir à des groupes, mais on s'accepte plus, je dirais, en tant que personne individuelle.
C'est ça. Et est-ce que du coup l'avenir de la parfumerie, selon vous, serait dans le sur-mesure, mais le vrai sur-mesure pour le coup ?
Ah bah moi j'en suis convaincue. Voilà. Non, j'en suis convaincue. J'étais convaincue de ça il y a deux, trois ans quand j'ai monté ma société. Et j'en suis toujours aussi convaincue, même plus aujourd'hui. On remarque que c'est le cas dans l'industrie textile, automobile. Il y a de plus en plus de personnalisation jusqu'au moindre détail, finalement. Ouais. Donc, je ne pense pas que l'industrie puisse passer à travers ça. Aujourd'hui, c'est ce que je vous disais, on a vraiment envie d'être unique, de mettre en avant sa personnalité et son individualité. Donc, on est obligé, en fait, de faire un parfum sur mesure. Notre odeur doit nous correspondre. Par exemple, ça m'est arrivé, je pense que je ne suis pas la seule, mais ça m'est arrivé dans la rue, des fois, de croiser quelqu'un qui portait le parfum de ma maman ou de mon conjoint. Mais moi, ça j'ai l'impression d'être agressée. J'ai l'impression qu'il y a une intrusion dans mon intimité.
Quelqu'un a volé le parfum.
Voilà, j'ai vraiment l'impression que tout d'un coup, cette personne me connaît alors qu'elle ne me connaît pas. Et je trouve ça presque agressif. Alors que, à partir du moment où on a un parfum qui n'appartient qu'à soi, à ce moment-là, le parfum, il ne peut pas nous faire penser à quelqu'un d'autre. Donc, je pense qu'on a envie aussi d'authenticité. Je pense qu'on a envie de retrouver des moments privilégiés, des moments d'échange. On a envie probablement aussi qu'on prenne soin de nous et de prendre soin de nous-mêmes. Et du coup, ce parfum sur mesure où on va prendre le temps d'écouter, où moi, je vais vraiment passer du temps avec la personne. C'est aussi pour ça qu'être indépendant, c'est important. C'est que je peux gérer ce temps comme je le ressens. Et accorder tout ce temps à mes clients. Donc, en parfum sur mesure, il est nécessaire. On n'a pas le choix.
On n'a pas le choix. Alors, j'ai vu l'autre fois dans un reportage à la télé sur la conception de parfums que ça se développait aussi beaucoup pour des lieux comme des showrooms auto, des boutiques de vêtements. C'est assez étonnant en temps de Covid de voir cette activité se développer.
Alors oui, effectivement, ça se développe beaucoup. Je ne trouve pas ça étonnant parce qu'en fait, ça se développait déjà avant. La période Covid. En revanche, je pense que ce qui serait vraiment intéressant aujourd'hui, entre autres par rapport à ce Covid, les magasins vont réouvrir, les showrooms vont réouvrir, mais il y aura peut-être une appréhension de la part de certaines personnes à y retourner ou à y passer du temps. Donc je pense que le parfum sur mesure va être vraiment nécessaire pour se sentir, enfin pour savoir où on est en fait inconsciemment, à partir du moment où vous allez dans différents magasins mais de la même marque et que ça sent toujours pareil. Inconsciemment, on est rassuré parce qu'on sait où on est et on est au bon endroit.
Ouais, d'accord.
On est dans cette marque. L'intérêt du parfum sur mesure dans ces cas-là, c'est vraiment de mettre en avant, encore une fois, les valeurs et que le parfum soit cohérent avec la marque. Plusieurs fois, j'ai entendu des gens qui m'ont dit « dans cette boutique, ça sentait trop fort, j'ai été obligée de sortir ». À partir du moment où le parfum est en accord et en adéquation avec la marque, il ne sera pas trop puissant et les gens ne seront pas étonnés de le sentir non plus. Ça sera une évidence de sentir ce parfum. Ce qui, à mon sens, serait extrêmement intéressant et important aujourd'hui, c'est vraiment d'utiliser en fait, l'aromacologie pour que les parfums permettent aussi aux gens de se détendre, de se relaxer, de se sentir en sécurité dans ces lieux et donc d'y passer plus de temps. Donc je pense que le choix, à la fois sur mesure, en mêlant les principes d'aromacologie, aujourd'hui, sont très importants et peuvent être vraiment utiles.
Oui, effectivement. Et être indépendante aujourd'hui, c'est quand même une rareté dans votre métier. Vous pourriez envisager d'être rachetée, entre guillemets, par un grand groupe, comme certains parfumeurs
aujourd'hui, non. Aujourd'hui, non. Je pense pour les mêmes raisons pour lesquelles j'ai eu ce besoin d'être indépendante. Être rachetée, ça veut dire être obligée de faire des concessions. On nous demande d'être plus productif, de passer moins de temps à faire telle ou telle chose. Enfin, il y a forcément des concessions. Et aujourd'hui, moi, j'aime faire mon métier de la façon dont je le fais, sans concession, avec cette liberté créative, avec cette liberté de gérer mon temps avec les gens. Que ce soit une marque ou que ce soit un particulier, mais c'est très, très important, je trouve, de vraiment pouvoir échanger et prendre le temps de le faire, donc sans concession. Voilà,
c'est clair. C'est radical. Et quel conseil vous donneriez à un jeune, une jeune qui voudrait se lancer dans ce métier ?
Dans le métier de parfumeur ou parfumeur indépendant ?
Parfumeur et parfumeur indépendant.
Bon, dans les deux cas, je pense que mon plus gros conseil, ce serait de ne pas lâcher. Alors, c'est peut-être un peu classique, mais ça reste des métiers où il y a peu d'élus.
Ouais.
Il y a assez peu de place. Les occasions sont rares, mais je pense qu'il ne faut pas lâcher. Je pense qu'il faut toujours y croire. Hein, quand c'est en nous, à un moment ou à un autre, les portes vont s'ouvrir. Et puis, je me souviens aussi, une des premières phrases qu'on m'avait dit à l'école, c'est « Si vous voulez être parfumeur, habituez-vous à perdre. » Parce qu'un parfumeur passe plus de temps à perdre qu'à gagner. Donc, clairement, il ne faut pas lâcher.
Bah, ce sera le mot de la fin. Merci, Anaïs.
Merci, Chantal.
Merci de nous avoir écoutés. Si ça vous a plu, abonnez-vous sur Apple Podcast et n'hésitez pas à nous laisser un avis et surtout une note. 5 étoiles, ce serait génial. Beauty Toaster est diffusé sur toutes les bonnes plateformes de podcast, sur les applis de musique à la demande et sur le blog beautytoaster.fr. Pour être informé des nouveaux épisodes, c'est facile, ils sont annoncés sur le compte Instagram et la page Facebook de Beauty Toaster. Suivez-nous. En attendant, passez une bonne semaine et rendez-vous mercredi prochain à 7h.